chaque fois.
On est grand et plus rien n'est un jeu. Et parfois avec toi je veux y croire. On est grand et plus rien n'est un jeu. Mais toi tu t'en fous. Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. J'attends un signe de ta part. Je peux te suivre n'importe où. Avec toi, tout est une aventure. Et quand tu es là, j'ose essayer.
On est grand et plus rien n'est un jeu. Mais parfois avec toi, je veux y croire. On est grand et plus rien n'est un jeu. Mais toi, tu t'en fous.
Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu.
Moi je veux qu'on reste léger, 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 léger.
Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue à ton jeu. Tu veux que je joue. Tu veux que je joue à ton jeu.
Écoutez, Chiz 94.3 FM, Québec.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Vendredi 25 novembre 2022, ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon, vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et la CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Et on reprend tranquillement le pas vite le beat parlementaire. Ironiquement, on est rendu à la fin novembre, mais c'est seulement parce que la Chambre n'était convoquée que la semaine prochaine. Donc, ce sera la réouverture du Parlement, mardi, le 29, officiellement. Et oui, on va finir par recommencer à parler politique, parce que l'élection, ça fait déjà un peu plus que ça va quasiment faire... Ça fait un mois et demi, quasiment deux, que c'est fait, que c'est passé. Et on sera beaucoup moins gentillet que peut-être pendant la période électorale, j'ai envie de dire. On va l'en laisser passer un petit peu moins à ce gouvernement, parce que oui... Il y avait l'excuse de dire il y a la pandémie, donnez-nous une chance, c'est difficile, on n'a jamais vu ça. Mais là, ils ont de moins en moins d'excuses. Ou en tout cas, vu qu'on donne un peu plus de permission, vu qu'on est moins restrictif, vu qu'on ne veut pas réimposer certaines mesures, on est censé ne plus s'en préoccuper. Ce qui fait en sorte que cette semaine, notamment, la chicane est pognée dans le système judiciaire. Puisque Québec solidaire et le Parti libéral demandent à Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, d'arrêter de se chicaner avec, notamment, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, pour ouvrir un dialogue pour dénouer la crise qu'il y a actuellement dans le système judiciaire. Ce qui se passe, le système judiciaire qui est tout près du point de rupture. Les délais explosent, menacent d'entraîner des milliers d'arrêts de processus judiciaires. Le ministre Simon-Jolin Barrette se dit malgré tout préoccupé et en mode solution. La réforme controversée de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, est au cœur des préoccupations. Ce qu'elle veut faire de son côté, parce que c'est elle l'administratrice des juges, donc c'est elle qui décide l'horaire du temps, l'emploi du temps, notamment la réorganisation imposée malgré les demandes du gouvernement Legault, est justifiée entre autres par la complexification du droit et la nécessité d'écrire de nombreuses décisions, notamment en matière de charte. Ça, c'est ce que rapporte la magistrature. Québec demande devant les tribunaux pour annuler cette décision qu'on qualifie d'unilatérale. Et ils ont été déboutés en cours au début de la semaine. C'est ce qui avait, entre autres, retenu l'attention. Donc, on disait... on donnait raison à Lucie Rondeau que elle avait le droit. C'est ça, elle avait le droit de remanier remanier un peu l'organisation. Donc, elle avait que Simon-Jolin Barrette n'avait pas à se prononcer malgré la crainte des milliers d'arrêts de procédure. Parce que ça s'est vu plus récemment, des gros procès, des causes assez importantes qui ont dû être repoussé jusqu'aux limites de on n'aura plus le temps finalement, délai déraisonnable et on annule le tout parce que on manque d'employés, parce qu'on manque de juges, on n'a pas de greffiers, on n'a pas de gens pour prendre des notes, ne serait-ce que ça. Donc, ce qui fait en sorte que le temps de trouver du monde pour remplir la salle et tout ça, les délais sont passés. Le système judiciaire est vraiment sur le point de rupture. Salam la bâtonnière, maître Catherine Claveau. Elle réclame des investissements majeurs dans le système judiciaire. La bâtonnière n'est pas la seule à sonner l'alarme. Une vingtaine d'acteurs du système judiciaire consultés dans le cadre d'une enquête par la presse s'inquiètent de l'avenir de notre justice alors que les délais s'allongent. 50 000 dossiers sont à risque uniquement dans la prochaine année. Les 160 juges de la Cour du Québec au criminel et au pénal siègent désormais. Et ça, c'est ce que c'est ce que Lucie, Mme Rondeau a dit, la chef de la Cour supérieure, voilà. Les 160 juges de la Cour du Québec au criminel et au pénal siègent désormais un jour sur deux, alors qu'ils siégeaient auparavant deux jours et délibérait la troisième journée. Et là, ce qui est important de dire, c'est que les juges sont en présentiel dans la salle un jour sur deux, plutôt que deux pour un, ce qui était avant. Pour compenser la perte nette de 4617 jours d'audition par année, la juge en chef réclame l'ajout de 41 juges, mais Québec refuse. Non seulement la facture est salée, 24 millions par année, mais une telle réforme requiert plus de 18 mois à déployer. Ça, c'est l'argument de Québec. Donc, on ne peut pas faire apparaître 41 juges, ce qui est un peu vrai également. Parce que surtout que les dernières nominations de juges de Simon Jolin Barrette contenaient Mathieu Poliquet et on se souviendra ce que ça a donné. On y reviendra d'ailleurs, il y a eu une décision qui a été rendue dans le dossier de Simon Houle cette semaine également. Les relations sont extrêmement tendues entre la chef et la juge en chef et le ministre. Dans une déclaration sous serment de 20 pages déposée en preuve, Lucie Rondeau accuse Simon-Jolin Barrette de tenter par tous les moyens de la court-circuiter au lieu de l'aider à implanter les mesures que s'imposent. Le procureur général du Québec reproche pour sa part, le procureur étant Simon-Jolin Barrette, reproche pour sa part à Lucie de mettre une pression indue sur le gouvernement. Donc, de mettre le gouvernement devant le fait accompli que aujourd'hui, ça prend 41 juges supplémentaires et qu'il aurait dû être mis au courant, vu que ça prend un an et demi à former, ou en tout cas un an et demi à mettre en place. Il aurait dû être mis au courant il y a déjà un an et demi de tout ça. En même temps, cette décision-là de réduire le temps à la cour a été prise un peu plus récemment. Mais encore là, ça se justifie parce que justement, il manque d'employés. Et faut préciser, toujours selon les arguments du système de justice, que c'est pas que les juges vont faire moins de jobs. C'est juste que en enlevant une journée de cours, ça leur permet de mettre cette journée-là justement dans la recherche parce que les rapports écrits doivent se faire et que ce soit rendu la manière la plus claire possible. Donc, que lorsque les décisions sont rendues, ça soit pas juste coupable, non coupable, voici un petit papier, voici une fiche de lecture écrit dessus, coupable, non coupable, merci, bonsoir, arrangez-vous avec ça. Parce que justement, le système demande maintenant à ce que les décisions soient détaillées. En donnant cette journée de travail-là pour les juges, on se permet de justement rendre les jugements, entre guillemets, plus rapidement comparativement que si le juge était deux jours en cour, ben il n'y aurait pas à, en plus de prendre la troisième journée pour prendre des jugements supplémentaires et nanana. Donc, les deux se valent dans une certaine manière parce que oui, d'un côté, on dit que ça se fait pas de même 41 nouveaux juges, c'est amplement valable. De l'autre côté, évidemment, on justifie qu'on a besoin de juges parce que justement, on manque de monde. Et dans ce cas-ci, oui, ça serait important d'avoir des juges, mais il n'y a pas juste les juges, il y a les employés à côté. Donc c'est pour ça que le système en ce moment tourne un petit peu au ralenti, on va dire ça comme ça. Je suis ouvert à donner des ressources supplémentaires, des juges supplémentaires, mais il faut que ça se traduise par un gain d'efficacité. On ne fera pas juste ajouter des ressources pour le même résultat où il n'y aura pas une minute de temps supplémentaire des cours pour les justiciables. Ce n'est pas acceptable, a réitéré Simon-Jolin Barrette à la réunion du Conseil des ministres mercredi. Projections du ministère de la Justice obtenues par la presse sont alarmantes. De 47 000 à 64 000 causes pourrait dépasser les plafonds de l'arrêt Jordan en 2022-2023 uniquement, en raison du nouveau ratio sans ajout de nouveaux juges. Donc, si on garde le statu quo, si on ne fait rien, il y a entre 47 000 et 64 000 causes au Québec qui pourraient juste tomber, ne pas avoir de suite parce qu'on manque d'effectifs partout. Et ça, c'est problématique. Mais en ce moment, la chicane est pognée entre les deux de qui va tenir son bâton le plus longtemps avant que l'un ou l'autre décide de laisser aller la chose. Donc, ça, c'est pour le côté judiciaire de la chose parce que, évidemment, ça va pas particulièrement bien dans les autres ministères non plus. On attend toujours de pied ferme les autres ministres, hein, on veut pas non plus que ça soit une partie gratuite, disons ça comme ça, une partie gratuite pour, ou plutôt donner champ libre et faire n'importe quoi. Ça serait peut-être l'essentiel de ce côté-là. On s'arrête quelques instants. Au retour, on continue à parler de cette actualité de la semaine, ici même, sur les ondes de Chiz 94.3 et le CFAC 88.3. On va aller entendre Simon Kearney avec « Deux vies dans la tombe » avec Louis-Adrien Cassidy, tout de suite en musique, en featuring, Louis-Adrien Cassidy, sur les ondes de Chiz et de CFAC.
Tu m'évites, c'est comme si j'existais pas. T'es une qui juste se repeat dans le cover your best beat. Dans le cœur, be your best beat. Si t'es pour me briser les cœurs, apporte au moins des fleurs. De pieds dans la tombe, tu vas me faire mourir avant d'être ma plombe. Tu me donnes la job.
De faire du bien, je sais tout ce qui t'excite. Laisse-moi te faire un dessin, un selfie explicite.
T'es d'une qui je sur repeat dans le corps, your best beat. T'es d'une qui je sur repeat dans le corps, your best beat. Oublie les fleurs, apporte-moi un peu de chaleur. Je couche avec le démon, mais crois-moi, j'en ai envie. De toute façon, j'ai déjà deux pieds dans la tombe. J'ai déjà deux pieds dans la tombe.
Voilà, de retour au deuxième service. C'est mon Kearney qu'on vient d'entendre en musique. Comme je le disais juste avant la courte pause, il y a eu un suivi de dossier cette semaine. On aime ça d'habitude, les suivis de dossier. Le juge Poliquin, Mathieu Poliquin, a été blanchi par la magistrature puisque trois plaintes visant le juge à l'origine de l'absolution conditionnelle de Simon Hull à Trois-Rivières ont été rejetées par le Conseil de la magistrature cette semaine dans une décision rendue le 17 novembre dernier et publiée seulement cette semaine sur le site. L'organisme chargé de s'assurer du respect par les juges de leur code de déontologie, par leur code de déontologie, le conseil a tranché que ces plaintes n'étaient pas recevables. Comme il est expliqué dans la décision, on ne nomme pas le juge Poliquin, on le sous-entend, mais on comprend que c'est lui. Le code de déontologie des juges encadre leur conduite, mais pas leur liberté d'expression, ni les décisions qu'ils rendent. Donc, les plaintes qui auraient été reçues par le conseil de la magistrature, voilà, c'était concernant davantage les termes employés dans le jugement qui avaient énormément choqué tout le monde, on se souviendra au début de l'été. Les plaintes examinées ne visent aucunement aucun manquement de nature déontologique du juge sur la part de son comportement, mais allègue plutôt qu'il aurait commis des erreurs dans son évaluation des faits d'un dossier, ainsi que dans son analyse de droit et des facteurs ou critères pour déterminer la peine appropriée. Le Conseil de la magistrature rappelle qu'il n'est pas un organisme d'appel ou de révision de sentence, donc des décisions rendues par les juges, un rôle qui revient plutôt aux tribunaux supérieurs. Donc, s'il y avait une plainte en tant que telle à faire, ça aurait dû être à la cour, aux tribunaux supérieurs, mais encore là, quand on est externe, parce que on a trouvé que Mathieu Poliquin a manqué de sensibilité et de jugement, c'est pas suffisant. Donc, le conseil de la magistrature, ce n'est pas dans ses fonctions en tant que telles. Ça, c'est réglé pour Mathieu Poliquin. Il pourra continuer d'être un juge. Par contre, son protégé, celui à qui il avait dit que parce que l'agression sexuelle n'avait pas duré longtemps, il ne méritait pas d'avoir un casier judiciaire pour ça, parce que si jamais il avait à voyager pour sa job, ça lui nuirait. On se rappellera de ce jugement-là. Mais finalement, il a été accusé mardi de non-respect de conditions. Les faits qui lui sont reprochés se sont produits le 4 juillet dernier, selon l'acte de sommation. Donc, à peu près dans les mêmes temps qu'on rendait public le jugement selon lequel il était blanchi de manière conditionnelle tout en respectant ces conditions-là, mais qu'il avait quand même été blanchi par Mathieu Poliquin. Simon Hull aurait empoigné les fesses d'une femme sans son consentement dans un bar de Cayo Coco à Cuba, ce qui avait été rapporté par Radio-Canada quelques jours après avoir révélé que l'ingénieur de Trois-Rivières avait obtenu la libération conditionnelle pour agression sexuelle. On du reportage, Vicky Vachon, qui témoigne à visage découvert et dont les affirmations avaient été en partie corroborées par d'autres voyageurs dans le reportage de la Société d'État, y affirmait que Simon Hull aurait empoigné ses fesses de façon très agressive dans la nuit du 3 au 4 juillet. Vicky Vachon, qui est une enseignante qui réside à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il avait dit sa façon de penser, lui en pleurs, c'est pas de ma faute, mes mains agissent tout seul. En tout cas, des arguments pas très béton. Et c'est lorsqu'elle est revenue au pays, donc lorsqu'elle a pris connaissance de l'actualité des précédents jours, qu'elle s'est aperçue que son agresseur était au cœur d'une vaste controverse dans la province. Donc, lorsqu'elle a vu les reportages, elle a tout de suite reconnu Simon Hull en faisant comme « Hey, c'est le gars au bar au Mexique. À Cuba, excusez. J'étais à côté. Simon Hull devra se présenter en cour au palais de justice de Saint-Jérôme le 2 décembre prochain pour faire face à ces nouvelles accusations. Donc, voilà, le juge Mathieu Poliquin, dans la décision rendue en juin, dont le ton avait soulevé la controverse, avait abordé l'absolution conditionnelle de M. Hull, reconnu coupable d'agression sexuelle et de voyeurisme, parce que l'homme âgé de 27 ans au moment des faits avait déshabillé la victime alors qu'elle avait les facultés affaiblies et dormait avant d'introduire des doigts dans des zones qu'elle n'avait pas donné son consentement. Il avait pris des photos de son corps et les événements reprochés s'étaient déroulés sur à peu près une nuit complète. Le juge Poliquin avait écrit dans son jugement que comme les événements s'étaient déroulés somme toute rapidement, ça ne méritait pas un casier judiciaire. Or, on était capable de prouver que les fichiers en tant que tels qui avaient été pris sur une durée plus que 5 minutes. C'était des photos qui avaient été prises pendant au moins une nuit complète. Même si l'événement en tant que tel où il l'agresse a duré somme toute rapidement. Donc la direction des poursuites criminelles et pénales qui réclame une peine d'emprisonnement de 15 à 18 mois avait notamment reproché au juge Poliquin d'avoir prononcé une peine manifestement déraisonnable. Finalement, on se rend compte que s'il y avait peut-être des affaires qui n'étaient pas si claires, et justement, dans cette affaire d'absolution conditionnelle, ça lui permettait de voyager. Et ce qu'il a fait lorsqu'il était en voyage, c'est continuer d'être une mauvaise personne. Donc, ça devrait être prononcé la semaine prochaine. Quelle date c'était? C'était le 2 décembre. Donc, ça va vraiment à vendredi prochain que la sentence pour Simon Hull sera finalement prononcée, on l'espère, devant un autre juge. Et sinon, pour rester dans le domaine judiciaire, notre espion chinois qui s'était déguisé en employé d'Hydro-Québec va demander à être remis en liberté le temps de qu'on fasse la lumière là-dessus, qu'il soit a amené en procès l'homme de 35 ans, ressortissant chinois, détenteur d'un visa de travail chez Hydro-Québec, est détenu depuis son arrestation le 14 novembre dernier par la GRC. Les procureurs de la Couronne s'opposent évidemment à sa libération sous caution parce qu'ils craignent que l'accusé ne quitte, que l'accusé quitte le pays, littéralement. Par contre, l'ancien employé, quant à lui, assure qu'il ne quittera pas le Canada pendant les procédures parce qu'il veut défendre son intégrité. Il veut défendre sa personne. Donc, il n'a pas intérêt à quitter le Canada. Et en tant que tel, en tant qu'espion chinois, si ça s'avère être véridique, il n'a pas non plus aucun intérêt à rester ici. Donc, évidemment, la Cour s'oppose à ce qu'il soit remis en liberté. M. Wang, qui habite Candiac, en Montérégie, est la première personne à être accusée d'espionnage économique en vertu de la loi sur la protection de l'information au Canada dans l'histoire moderne. Il fait également face à 3 accusations en vertu du code criminel, soit abus de confiance, utilisation frauduleuse et sans autorisation d'un ordinateur, obtention de secrets commerciaux par la tromperie et le mensonge ou d'autres moyens frauduleux. La GRC allègue que l'ancien employé d'Hydro-Québec a fourni des informations sur la société d'État à une université chinoise, à des centres de recherche chinois et qu'il a publié des articles scientifiques et déposer des brevets auprès de ces établissements plutôt qu'auprès d'Hydro-Québec. Donc, voilà où l'utilisation frauduleuse et autorisation d'ordinateur vient en lien et obtention de secrets commerciaux pour la tromperie dans ce cas-ci. La police allègue également que l'accusé a utilisé des informations sans le consentement d'Hydro-Québec, portant ainsi à la propriété intellectuelle. Jusqu'à ce qu'il soit licencié plus tôt en début novembre, Wang travaillait au centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie d'Hydro-Québec à Varennes. Il menait des recherches sur les matériaux de batterie, un secteur crucial pour l'industrie des véhicules électriques dans les prochaines années, bien sûr. Donc, c'est ce qui faisait en sorte qu'il y avait une espèce de gros point d'interrogation de « mon Dieu, il avait quand même accès à des informations importantes ». En Cour du Québec, depuis mercredi, le tribunal a entendu certains des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête de la GRC. L'avocat de Yuesheng Wang, je le prononce mal, je voulais l'essayer, je l'ai prononcé mal. Gary Martin n'a pas demandé d'ordonnance de non-publication sur ses preuves à l'extérieur de la salle d'audience. L'avocat a indiqué que son client avait le sentiment d'avoir été injustement accusé. Wang est accusé d'avoir utilisé son compte de courriel d'entreprise chez Hydro pour transférer à son adresse personnelle de courriel des documents confidentiels et des photos non autorisées du centre de recherche de Varennes. Donc, c'est ce qui c'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Il a déclaré au tribunal que les informations qu'il avait envoyées n'étaient pas secrètes et qu'elles étaient en logiciel libre. Il a soutenu avoir pris des photos du laboratoire avec son téléphone portable, mais c'était pour montrer à ses collègues les failles de sécurité du laboratoire. Ça, c'est cute, par exemple. Il a cependant admis avoir vu des affiches interdisant toute photographie dans le centre de recherche. Donc, il aurait pris des photos de l'aménagement du laboratoire pour montrer à ses collègues de ce même laboratoire comment le laboratoire est lousse, même s'il y avait des photos, même s'il y avait des interdictions de prendre des photos, et qu'évidemment, c'était pour partager avec ses collègues, qu'il dit. Wang a offert en caution sa maison de Candiac et une copropriété pour assurer le tribunal qu'il resterait au pays pendant les procédures. Mais on apprend également qu'il n'a pas de famille au Canada et qu'il mène une vie sociale limitée qui comprend le travail et un groupe de randonnées pédestres. Sauf que le bout où il avoue ne pas avoir de famille au Canada autre que sa conjointe, donc de ne pas avoir de lien avec le pays et que s'il rentre en Chine, il va pouvoir retourner auprès de sa famille. Entre autres, mais tu sais, en voulant dire, il n'y a rien qui le retient vraiment au Canada, donc qu'il réussisse à se faufiler et à retourner à la maison discrètement pour être protégé en Chine. Évidemment, on se rend du côté du procureur qui lui va dire, du côté de la couronne plutôt, qui elle va dire « Ouais, parce que les chances qu'il s'enfuit sont présentes. » Et effectivement, les chances sont assez bonnes. Sa petite amie, depuis un peu moins de 2 ans, Ayun Feng Zheng, a déclaré au tribunal qu'elle agirait en tant que caution pour s'assurer que Wang respecte les conditions du tribunal. C'était libéré, mais elle a admis qu'elle n'avait pas d'argent à offrir en cautionnement. Donc, elle se portait garante, mais qu'elle n'avait pas vraiment de truc à mettre sous garantie. Je crois vraiment qu'il restera pour prouver qu'il n'a pas fait ces choses, a-t-elle déclaré. Sa réussite scolaire est quelque chose dont il est vraiment fier et qui lui tient beaucoup à cœur pour continuer son travail universitaire qu'il aime tant. Alors, je pense qu'il restera afin de blanchir son nom et obtenir un traitement équitable de la part du Québec et de ce pays. C'est assez faible, mettons. On se souviendra plus près de la ville de Québec, le pasteur Paul Mukendi qui a été reconnu coupable par le tribunal québécois, qui a fait confiance à ce que Paul Mukendi ne quitte pas le pays pour obtenir sa sentence ici. Et lorsqu'il était pour recevoir sa sentence, comme par hasard, il avait réussi à fuir au Congo où il ne peut pas être extradé parce qu'on n'a pas, au Canada d'entente avec le Congo. Et lui continue à clamer son innocence et à dire « Ben là, ils ont juste à venir me chercher. C'est pas ça le problème. » Et ça va faire un peu plus d'un an et demi qu'il est en cavale, qu'il est interdit de séjour au Canada. Parce que s'il atterrit au Canada, il ira directement en prison, en plus d'avoir fui les tribunaux. Donc après ça, que le premier accusé d'espionnage au Canada dise « Non, non, je vais rester au pays, là. Vous pouvez me faire confiance. » Me semble que c'est mince comme argumentaire. Toutefois, ce sera entendu seulement la semaine prochaine. Si il peut retrouver sa liberté le temps du procès, mais pour l'instant, c'est mince. Donc, Yue Shang Wang tentera d'obtenir sa libération conditionnelle pour les procédures, pour tenter, dit-il, de faire, de laver sa réputation. Mais on peut se permettre de douter malgré tout. Donc, à suivre pour ça, ça devrait avoir lieu la semaine prochaine. Si tout va bien, si on trouve un juge, notamment, qui va pouvoir siéger cette journée-là. Voilà le lien avec Simon-Jolin Barrette, qui s'entête avec la juge de la Cour suprême. Pas de la Cour suprême, mais de la Cour du Québec. On s'arrête quelques instants. Au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Vous me connaissez sur les ondes de Chiz pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire sous gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il n'y en aura pas de facile.
Il n'y en aura pas de facile à Chiz 94.3.
déchiré. Je vais vous montrer la version simplifiée. Tu fais le left, right, left, fight avec tes pieds. Ok, course aux places, fais la geste, tu belle. Demande à tes mollets si c'est consensuel. Yup, check ce corps sensuel. Pas de diète, pas de corps svelte. C'est un voyage spirituel pour les aisselles. Y'a courir, c'est dans le becherel.
Pas capable de stay still, sit up.
Pas capable de stay still, sit up. La vie, c'est mon treadmill, push up. Pas capable de stay still, sit up. La vie, c'est mon treadmill, push up. Pas de toxique, pas de Tchernobyl. J'cours pour le cash, pis pour les textiles, nah. J'cours, j'fais des longues nuits. Pour mes amis, pour ma famille. Une athlétique intellectuelle. J'suis sur le treadmill pour le prix Nobel. J'ai mes raisons, mes inclinaisons. Change de vitesse comme je change de saison. Mes sneaks font squeak sur le petit tapis. Tu peux pas aller vite si tu restes assis. En main, j'cours dans ta tête quand t'es endormi. Solo squeak, 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 squeak. J'fais des spins sur mon elliptique. Tu me verras pas pédaler dans le vide. Il y en a qui dit c'est excessif, mais tu peux pas perdre si t'es ces deux équipes. Ok, relax, on prend une petite pause. Slow-mo comme un cosmonaute. Omni-kin jaune, sur mon X, même dans mes chromosomes. Sur mon X, peu importe où je saute. Oh, et attends une seconde, mes lacets sont détachés. Et oh my god, j'aurais vraiment pu me faire mal. Ouf, ok. Ok, je suis prêt pour entrer, coach. J'suis tanné de faire des front flips. J'aurais goût de faire des back flips. Check me snap, j'suis le crocodile. La reine reptile des écrans tactiles. Des swipes agiles pis versatiles. J'utilise les semelles sur toutes mes espadrilles. Hein? Pas capable de stay still, sit up. La vie c'est mon treadmill, push up. Pas capable de stay still, sit up. La vie c'est mon treadmill, push up. Pas de toxique, pas de Tchernobyl. J'cours pour le cash pis pour les textiles, nah. J'cours coup ce que j'm'ennuie. De mes amis, de ma famille. J'fais de la muscu émotionnelle. Ton bench press est rendu obsolète. Gros pecs optionnel. J'veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton abdomen.
Ton cœur.
Ouh! Damn, c'est trop chaud!
Y'a de la place en masse dans ma petite piscine. So break me off a piece of that dopamine. Y'a yeah, j'ai la pêche pis les aubergines. J'fais du treadmill pis de l'aqua gym. Y'a yeah, j'nage avec des palmes d'or. Où c'est t'as pris tes vêtements sport? Le treadmill c'est une métaphore. Mais j'peux quand même avoir le kit pis les accessoires. Le treadmill, c'est une métaphore pour comme quelque chose qui avance pis t'as comme pas le contrôle. Mais comme tu réalises, t'as de l'endurance, tu sais, ou c'était comme obligé d'avancer. C'est comme une force, genre magique ou genre électrique. C'est comme une métaphore pour le destin, tu sais.
Ouais, ouais.
Pis t'as pas besoin d'être super fit pour avoir un cool destin, là, tu sais. Faut le monde arrête de penser de même. Moi, je suis pas fit pis j'ai quand même droit d'avoir un beau destin.
Pis moi, je vais finir seule. Telle est ma destinée.
Coco Béliveau, en musique, avec Pony sur Treadmill, qu'on vient d'entendre, nouveauté. Je trouvais ça sympathique de voir Coco Béliveau, humoriste. Mais c'est vrai, elle chante également. On l'a vu à quelques reprises, mais voilà. Une chanson ici même, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Parlons cinéma, non pas un film que j'ai été voir cette semaine, puisqu'il sortira seulement d'ici les 2-3 prochaines semaines, à peu près, Avatar 2, qui s'en vient incessamment, imminemment. Et James Cameron a décidé de mettre la barre très, très haute pour son deuxième volet, quelques 10 ans, presque 15 ans plus tard après le premier film. Avatar 2 devrait sortir à la mi-décembre, si tout va bien. Et il s'est mis lui-même la pression en disant, en entrevue au magazine GQ, qu'il espère un succès phénoménale pour ce film-là pour qu'il devienne rentable. Qu'est-ce qu'un film rentable? Règle générale, un film rentable doit faire 3, 4, 5 fois son budget pour rentrer dans ses dépenses, d'une première part, payer tout le monde, payer les acteurs et tout ça, pour que le film commence à être rentable. Et James Cameron a mis la barre très haute en voulant faire Avatar 2, 3, 4, 5, presque d'une shot, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Techniquement, il a fait 2 et 3 pour l'instant. Donc, 2 et 3, semble-t-il, devraient être finis de tourner. On se souviendra également qu'il avait obtenu des permissions spéciales du gouvernement néo-zélandais pour pouvoir aller tourner pendant la pandémie parce qu'il y avait des trucs à finir. C'était soit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, mais il y avait besoin de permissions spéciales donc pour tourner ce film-là. Parce que c'était, encore une fois, pendant la pandémie. Il fallait qu'à un moment donné, ce film-là sorte. Il avait été repoussé déjà à quelques reprises. Et dans le cas de La Voix de l'eau, deuxième volet, il espère faire au bas mot 2 milliards de dollars au box-office mondial, puisque en ce moment, Avatar 2 aurait coûté au minimum entre 350 et 400 millions de dollars. Donc lui veut aller à 2 milliards, soit 5 fois le budget du film. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Et ça, c'est les montants qui ont été retenus. Parce qu'évidemment, ça peut être davantage, j'allais dire comme moins, mais probablement davantage. Donc entre 350 et 400 millions minimum, on espère faire 2 milliards. Si c'est pas 3, on espère un premier 2, mais on peut aller jusqu'à peu près 3 milliards. Pour donner une idée, ça en ferait l'un des 5 plus gros films de l'histoire du cinéma. L'histoire moderne du cinéma. En première place, il y a déjà Avatar 1 avec 2 900 millions, suivi par Avengers Endgame, donc le quatrième Avengers, 2,8 milliards arrondi. Titanic avec l'inflation, avec l'ajustement des prix à 2 200 millions. Star Wars épisode 7. Force Awakens, 2 069 millions. Et Infinity War, Avengers, le troisième, à 2 048 millions. Donc, lui veut aller se situer là-dedans avec son 2 milliards et demi, 3 milliards pour devenir rentable. Il veut être le troisième meilleur film avec Avatar 2. Donc, dépasser le Titanic, ce qui est quand même pas rien. Évidemment, le film va sortir en 3D et tout ça, donc il y aura possibilité de faire un petit peu plus d'argent avec ça. Mais encore une fois, est-ce que le 3D rajoute encore quelque chose en 2022, 2023? La question se pose, que ce soit un 3D si extraordinaire qu'il en vaut la peine de payer le supplément au cinéma. La question va se poser. Le cinéaste parle de fric fou. La pire affaire de l'histoire du cinéma, selon lui, pour que les studios entrent dans leurs frais et continuent à le soutenir, il faudrait en faire le troisième ou le quatrième meilleur film plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est notre seuil de rentabilité qu'il pose lui-même. Encore une fois, s'il faisait 2 milliards, ce serait déjà quand même pas pire. Il en ferait 1,5 milliard, même si le film en a coûté, mettons, 500. C'est quand même 4 fois son budget, mais lui vise minimalement 2 milliards, ce qui est quand même pas rien. Pour donner un autre exemple, un film comme Top Gun Maverick, qui est encore à l'affiche, même si le film a été à l'affiche pendant l'été, arrive et commence à stagner à 1,5 milliard. Et ça, c'est le cinéma après la pandémie. Donc, que James Cameron réussisse à faire au bas mot 2 milliards avec Avatar 2, donc en plus avec une suite à un film et une suite que les gens n'attendaient pas nécessairement impatiemment dans leur salon de quand est-ce que James va nous faire le 2. C'est un énorme pari en ce moment que se donne le réalisateur. Aucun film sorti après la COVID n'a dépassé le 2 millions de dollars. Top Gun arrive à 1,5. Spider-Man No Way Home est sous la barre du 2 milliards, donc il ne l'a pas atteint. Malgré les ressorties avec la version longue de Spider-Man au cinéma, donc ça n'a pas été suffisant pour aller chercher ces montants-là supplémentaires. Donc Avatar devra s'armer de patience, disons-le, à moins que le film soit à l'affiche toute l'année. Et encore là, ça coûte de l'argent de laisser un film à l'affiche. Donc, pour la mise en marché, évidemment, il y a de l'argent à faire là-dessus. Ce pourquoi il a déclaré plus récemment que Avatar 4 et 5 vont dépendre, c'est évidemment le 2 et le 3 vont être rentables, parce qu'après ça, ça ne devient pas une bonne idée de faire 4 et 5 si 2 et 3 ne sont pas convaincants. Donc, énorme pari pour James Cameron qui veut faire de sa suite d'Avatar 1 à 2 milliards 900 millions, on le rappelle, le troisième ou quatrième meilleur film de tous les temps au box-office, soit un 2 milliards 100 millions. Au bon mot pour se classer là et pour dépasser Titanic, il faut qu'il dépasse Titanic d'un autre million. Donc 2 201 millions, il faudrait qu'il fasse 1 202 millions pour être le troisième film le plus rentable de tous les temps. Encore une fois, avec une suite que personne n'attendait. Il va y avoir un hype, il va y avoir des gens qui vont vouloir aller le voir. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont vouloir aller voir Avatar 2 comme ils ont vu Avatar 1 des dizaines et des dizaines de fois? C'est pas garanti, mettons. Donc, à suivre pour James Cameron, son pari sera réussi. On s'arrête une dernière fois, juste Robert avec le silence et la lenteur. Lenteur qu'aura besoin peut-être James Cameron dans ce cas-ci. Vous écoutez le deuxième service au retour. On parle jeux vidéo. Ici même sur les ondes de Chis 94.3 et la CFAC 88.3.
Pick-up gris roule sur le round. Il y a des abeilles dans le trou à feu. T'as trouvé de l'or, t'as trouvé de l'or dans ta cour arrière. Il y a ta femme dans sa chemise blanche, il y a ta femme dans sa chemise blanche. Elle te parle du soleil. Cherche un mot qui rime avec miel pour faire fitter avec chemtrail. T'as trouvé de l'or, t'as trouvé de l'or dans ta cour arrière. Il y a ta femme dans sa chemise blanche. Il y a ta femme dans sa chemise blanche. Et le soleil par la fenêtre fixe la poussière en suspens. De ton cœur.
des arbres et puis des fleurs.
De retour au deuxième service. On conclut en jeu vidéo cette semaine. Pourquoi pas? Ça faisait longtemps. Parce que je suis de ceux qui font partie des 10 millions de copies vendues du dernier volet de Pokémon Violet et Écarlate pour leur nom francophone. Scarlet and Violet en anglais. Vente hallucinante en 3 jours. L'un des meilleurs scores pour une franchise de jeux vidéo. 10 millions de copies ont trouvé preneur, que ce soit numérique ou physique. Battu God of War, Ragnarok, qui eux avaient réussi à faire 5 millions de ventes dans sa première semaine de commercialisation. Pokémon a réussi à en faire 10 en 3 jours. Donc c'est largement au-dessus, mais ça reste quand même l'un des meilleurs lancements de jeux de l'histoire de Nintendo, sauf erreur. Du moins pour un lancement de jeu, parce qu'évidemment, il y a d'autres jeux qui ont été vendus à davantage d'exemplaires que ça, mais dans le cas d'un lancement de jeu, c'est assez surprenant. Surprenant aussi parce que finalement, les gens sont un petit peu fâchés de tout ça. Pour l'instant, dans la franchise Pokémon en tant que telle, le record demeure Rouge et Bleu, donc les deux premiers jeux, Rouge, Bleu, Vert probablement, avec 31 millions de ventes. Écarlate et Violette en ont fait quand même le tiers-ish après 3 jours. Donc, c'est quand même pas si mal. Peut-être réussiront-ils à dépasser les ventes de Rouge et Bleu. Quoique, avec les images qu'il y a en ce moment du jeu, ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi? Parce que le jeu n'est pas terminé. Et ça, c'est peut-être le plus gros défaut des studios de jeux vidéo des années récentes, c'est qu'il faut tellement sortir rapidement des jeux que la finition, le polissement, que tout soit beau et parfait lorsque le jeu sort, on dirait que ça passe en deuxième. Souvenons-nous de la catastrophe qu'a été Cyberpunk 2077 à sa sortie, des textures absentes, des scènes qui marchent pas, des bugs, des autos qui partent à voler à des milliers de kilomètres à la ronde, tout était bugué dans ce jeu-là. La première mise à jour était quasiment d'un gig complet, même si c'était pas plus. Donc c'était vraiment une catastrophe pour les gens qui s'étaient procuré Cyberpunk, au point que le studio qui l'avait créé avait fait des remboursements. Ils ont été obligés de mettre sur pied une plateforme pour que les gens se fassent rembourser leur copie de Cyberpunk 2077. Ironiquement, ils ont annoncé un 2, mais qui devrait prendre du temps, on l'espère pour eux autres. Donc probablement qu'ils ont tellement été rushés sur la fin que de tester les bugs, tester les erreurs de base n'avait pas été fait. Et c'est exactement ce qui arrive avec Pokémon en ce moment pour Scarlet et Violet. Scarlet et Violet écarlate. des images qui sont sur les réseaux sociaux qui montrent que lorsqu'on joue avec des amis, qui est à peu près l'une des fonctions principales de ce nouveau jeu-là, de pouvoir jouer en coopération, de jouer avec d'autres mondes, les personnages se twistent sur eux-mêmes, sont difformes, leur tête tourne sur eux-mêmes à la manette de l'exorcisme, que les Pokémon, pendant qu'ils font des combats, l'interaction autour se fout complètement de ce qui se passe, qu'il y a des personnages qui passent en plein milieu des combats, que tout, que des personnages tombent d'une falaise, tombent dans les grottes et tombent dans l'infini abyssal du jeu parce qu'ils ne sont plus dans le jeu. Donc c'est tous ces petits des Pokémon qui disparaissent dans le temps de le dire lorsqu'on est dans les champs. Donc autant que le jeu est visuellement très très beau, c'est une plateforme ouverte, c'est pas chemin route 1, route 2, route 3 comme dans les autres dans les précédents volets ou 88, 90, donc dans ce cas-ci c'est vraiment un monde ouvert, on peut aller dans l'ordre que l'on veut pour faire le jeu de la manière que l'on veut, mais que ces bugs graphiques-là surviennent dans un jeu en 2022 par un studio comme Game Freak, comme la Pokémon Company, comme Nintendo, ce n'est pas acceptable. Un jeu indie avec une équipe de 12 personnes qui fait un jeu de cette ampleur-là, qui a des bugs dedans, on pourrait comprendre que ça sorte sur Steam, sur PC, on pourrait comprendre qu'un jeu de la trempe de Nintendo, de Pokémon, de toutes ces années-là, ce n'est pas normal. Et qu'en plus, ce soit la compagnie mère qui gère cette franchise-là, quand même, d'une certaine manière, et qui produit la console sur laquelle le jeu est amené, que les graphiques soient aussi décevants également, mettons des grands champs vides, parce que le jeu n'est pas capable de générer l'herbe assez loin, qu'on se retrouve dans des déserts de textures brunes parce que les roches ne sont pas capables d'être générées à une certaine distance, qu'on est dans une salle de classe, parce que ça se passe dans une académie, qu'on se passe dans une salle de classe et que les personnages au fond de la salle, ou même l'élève sur le côté, soient moins bien générés que les trois élèves autour de notre personnage principal parce qu'ils sont une affaire plus proche, mais que le ratio d'image diminue autour parce qu'il y a trop de choses à générer, ce n'est pas normal pour, encore une fois, un jeu de cette ampleur-là. Et surtout qu'on est... Parce qu'en tant que tel, les personnages sont bien faits, les Pokémon générés sont bien faits. On voit de la texture dans les fourrures. Les Pokémon à fourrure ont des poils. Évidemment, ils sont pas à courir, puis on voit pas le mouvement, mais tu sais, il y a de la texture. C'est pas juste un plein de brun sur, mettons, un Ursaring qui va juste être brun. Non, non, non. On voit la différence. On voit que il y a un effort qui a été mis là-dessus, mais c'est qu'après ça, une fois ramené dans l'univers en tant que tel, oh, il commence à marcher en étant comme une espèce de petit bonhomme en pâte à modeler qui fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite parce que il est un petit peu trop loin de la caméra principale. Donc, malheureusement, et il y a une tentative qui est faite en ce moment de demander, eux aussi, des remboursements pour Écarlate et Violette. Donc, évidemment, est-ce que Nintendo va s'autoriser à faire des remboursements? Ça serait surprenant. Je pense pas que ça soit arrivé de mémoire à un jeu, surtout comme Pokémon. Donc, à suivre de ce côté-là. Mais pour l'instant, les critiques sont de modéré à correct. Là, tu sais, c'est des 8 sur 10, 7 sur 10. Mais c'est évidemment les critiques, les fans qui, eux, sont les plus difficiles. Et avec raison, parce que, évidemment, ça reste quand même un petit peu décevant. Semble-t-il que si on enlève la sauvegarde automatique, ça règle certains problèmes. Donc, en désactivant cette option-là, Pour on ne sait pas trop quelle raison, il y a des gens qui ont obtenu moins de bugs d'affichage. Évidemment, aussi, si on joue après une certaine période de temps également, si on joue un petit peu trop longtemps, après une heure et demie, deux heures, là, il commence à y avoir un peu plus de problèmes d'affichage. Donc, ce qu'on dit, c'est de fermer, sauvegarder, fermer le jeu, le repartir si on veut continuer à jouer. Mais sinon, en tant que tel, il devrait y avoir une mise à jour qui devrait être envoyée rapidement, mais justement que on se protège en disant « Oh oui, il y a une mise à jour qui s'en vient, on va patcher les problèmes. » C'est pas normal. Des jeux qui sortaient il y a 10 ans, 15 ans, sortaient avec presque pas de bugs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on a le droit à des jeux qui sont buggés? La question se pose. On s'arrête là-dessus pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Ici même, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. À la semaine prochaine. Salut!
OK, attention. 1, 2, 3, Chiz!
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeul, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à